Europe 1. Europe 1.
Jean-François Colosimo, bonjour.
Bonjour.
Historien, théologien, éditeur, vous venez de publier Occident, ennemi mondial numéro 1 chez Albin Michel. Il y a 30 ans, c'était l'inverse. Le monde entier se rangeait sous la bannière des démocraties occidentales. Rappelez-vous la guerre du Golfe. Les États-Unis avaient rassemblé une coalition militaire internationale de 35 États, dont 10 pays musulmans, pour bouter Saddam Hussein hors du Koweït. L'Occident, c'était l'ami qui vous voulait du bien. Alors que s'est-il passé pour qu'on devienne 30 ans plus tard, l'ennemi mondial numéro 1?
Je crois que d'abord, cet Occident était un Occident véritablement fantasmé. En fait, à la sortie de l'affrontement entre les deux blocs, l'empire du bien et l'empire du mal, et réciproquement, vice-versa, selon la manière dont on se positionnait du côté de Washington ou de Moscou, il y a eu cette illusion de la fin de l'histoire, de la mondialisation heureuse. On en avait fini avec les conflits, en tout cas les conflits les plus tragiques. On allait tous en quelque sorte devenir des consommateurs universels de ce grand marché planétaire qui serait voué au bonheur. Non, l'histoire nous a rattrapés, le tragique nous a rattrapés. Et puis on n'a pas vu que pendant ce temps, il y avait des empires dont on pensait qu'ils avaient hiberné, dont on pensait qu'ils étaient morts, enfin, mais qui en fait étaient en train de réarmer, et ils réarmaient en prétendant à leur tour à être l'hyperpuissance, la surpuissance. Ils voulaient à leur tour la place du numéro 1 sur le podium, n'est-ce pas, celle qu'occupent les États-Unis. Et comme nous sommes largement vassalisés, dépendants, satellisés par les États-Unis, eh bien nous suivons, mais nous sommes un peu le ventre mou de ce Occident fantasmé. Et puis les erreurs américaines depuis en fait 2001 et l'attentat contre les Twin Towers, cette espèce de Far West apocalyptique qu'ils ont mené à travers la planète pour punir, n'est-ce pas, les djihadistes. Mais les djihadistes, c'est la terreur ubérisée, c'est un ennemi insaisissable. Donc ils ont multiplié les conflits, ils ont enflammé le Proche-Orient, les États-Unis. Et puis, ils ont menti pour ce faire, c'était évidemment le fameux faux prétexte de la guerre d'Irak, et ils ont fourni à ces empires, qui sont de méchants empires, qui sont des empires despotiques, qui sont des empires plus impérialistes, qui sont des empires plus colonialistes, qui sont des empires plus occidentalistes, si on décrit l'Occident comme le mythe de la puissance qui écrase tout, n'est-ce pas ? Donc ces empires-là, à savoir l'Iran, l'Inde, la Turquie, la Chine et la Russie, bien sûr, eh bien ces empires-là ont prétexté de cela pour désigner un Occident menteur, un Occident hypocrite, un Occident corrompu, corrupteur et surtout décadent.
Mais on a quand même raté quelque chose, Jean-François Colosimo. Je me souviens, les années 90, ça a été un âge d'or pour l'Occident. On était riches, on était puissants, plus personne ne nous menaçait. Et on pouvait penser à ce moment-là que les Chinois, les Russes, les Indiens, les Turcs aussi, allaient devenir effectivement des consommateurs. Mais ils en avaient envie. À ce moment-là, ils avaient été privés de tout pendant si longtemps qu'ils avaient tous envie. Quand Deng Xiaoping disait aux Chinois, enrichissez-vous, mais les Chinois, ils avaient envie de s'enrichir, ils n'avaient pas spécialement envie de récupérer Taïwan. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en si peu de temps, on perde toutes nos cartes, j'ai l'impression?
Alors, je crois que justement, si vous permettez, l'année qui compte, l'année bascule, c'est pas 1989, c'est 1979, le retour de l'imam Khomeini à Téhéran, l'avènement de la première République islamique, mais c'est l'année aussi où la puissance soviétique, pour la première fois, va être défaite en Afghanistan par les Moudjahidines, les soldats de Dieu. C'est l'année où Reagan gagne l'investiture républicaine pour arriver à la Maison Blanche grâce au retour en politique des évangéliques. C'est l'année où le pape Jean-Paul II, le premier pape non italien depuis des siècles, franchit le rideau de fer et montre que les icônes sont plus fortes que les tanks en allant à Varsovie, n'est-ce pas ? C'est l'année du réveil du religieux, en fait, donc 10 ans avant la chute du mur. Et d'ailleurs, pour le dire, c'est aussi cette année-là, parce que c'est pas magique, c'est une année qui concentre beaucoup de ces événements, c'est cette année-là que édifiée la première université islamique à Gaza. Et c'est la première fois aussi que des religieux sionistes, le Gush Emunim, le bloc de la foi, entrent à la Knesset, au Parlement israélien. Le monde bascule, le monde ne vit pas que de bien matériel, n'est-ce pas ? La prospérité, ça ne suffit pas. L'être humain, c'est un être symbolique. qui a besoin, en fait, de rapport à la transcendance, de rapport à l'immanence, de rapport au dépassement de soi, de donner un sens à la vie et surtout à la mort. Et de ce point de vue-là, on n'a pas vu que ces empires qui étaient héritiers, en fait, de moments très nationalistes, autoritaires, ou de moments très communistes, totalitaires, en fait, ces empires-là, ils avaient désormais la volonté de continuer sur cette trajectoire, écraser toute dissidence à l'intérieur et conquérir à l'extérieur, mais qu'ils avaient compris, en fait, que l'erreur de leurs prédécesseurs, les Mao, Lénine, Mustafa Kemal, Reza Pahlavi, Nehru, etc., ça avait été d'abolir la religion, c'est-à-dire d'abolir la culture, l'identité. Et que l'identité religieuse, c'est le meilleur des carburants, en fait, pour la conquête.
Jean-François Colessimo, votre livre est aussi un livre d'histoire. Hein. Vous remontez très loin dans le temps, mais arrêtons-nous sur Xi Jinping qui arrive à Paris lundi, en visite officielle. Qu'est-ce qu'on peut attendre, nous, d'un Xi Jinping ?
Je crois que, si vous voulez, si on se place dans l'idée que nous avons eu la démonstration que l'Amérique n'était guère fiable, et puis que c'est une Amérique qui se pose des questions, des doutes sur son identité comme jamais. Il y a eu deux événements abominables, je dirais, pour les Américains. C'est la profanation du Capitole par les Trumpistes. C'est le Capitole, la Constitution, c'est sacré. Et puis deuxièmement, le départ bâclé d'Afghanistan, décrété par Biden. 20 ans de guerre, 3500 milliards de dollars dépensés, des centaines de milliers de victimes pour apporter la liberté et laisser le pays aux talibans. Un tête-à-queue aussi monstrueux que celui du Capitole. Donc, nous avons appris que nous sommes seuls en Europe, et nous avons appris, nous, Français, sommes les seuls à avoir l'arme nucléaire, à avoir une armée complète, à être présents sur toutes les mers. Nous avons appris qu'en plus, on était assez seuls en Europe. Non, l'Europe est seule, mais nous, on est très seuls au sein de l'Europe, particulièrement face à une Allemagne qui a délibérément, depuis 1945, confié sa sécurité à Washington. Donc, nous sommes seuls. Mais nous sommes seuls, donc nous nous retrouvons dans cette position assez classique de la France à travers son histoire millénaire, qui est celle d'un royaume qui joue les empires les uns contre les autres, n'est-ce pas, pour essayer de trouver son chemin, et qui s'appuie aussi sur les rébellions des peuples, n'est-ce pas, pour maintenir sa propre liberté. Xi Jinping, il est tout à fait représentatif de ça, vous voyez, de la même manière que Poutine restaure les monastères que les KGBistes dynamitaient. Lui, il cite Confucius, dont les écrits étaient vraiment brûlés en auto-da-fé par les gardes rouges, parmi lesquels son père, n'est-ce pas ? Mais maintenant, il cite Confucius parce qu'il y a un confucianisme d'État qui permet, en fait, mieux que le marxisme, en fait, d'asseoir la mobilisation. Alors cette Chine, en fait, nous ne sommes pas dupes. Elle est dans un mécanisme quasiment génocidaire par rapport aux Ouïghours. Ça, c'est vrai, malheureusement. Et c'est terrible. Mais en même temps, elle nous sert aussi à, je dirais, faire valoir à l'Inde que nous sommes aussi importants, puisque le combat titanesque de demain, il va être autour de ce nouveau bassin du monde. Il y a eu la Méditerranée jusqu'au Moyen-Âge. Il y a eu l'Atlantique jusqu'à aujourd'hui, demain c'est le Pacifique, et c'est l'océan Indien plus généralement, ça va être l'Asie, et le combat entre ces deux titans, la Chine et l'Inde, va déterminer une part du monde. Nous voulons aussi raisonner Xi Jinping, de manière à ce que lui-même raisonne Poutine, pour éviter véritablement la catastrophe en Ukraine, que serait en fait le fait que les Ukrainiens cèdent, que le front cède, et que Poutine gagne.
Ce que ne veut pas Emmanuel Macron, il l'a redit à The Economist. On fait une pause, Jean-François Colosimo, et on en parle tout de suite après.
Europe 1, 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Tadéhi.
Nous sommes ce matin avec Jean-François Colosimo qui publie Occident, ennemi mondial numéro 1 chez Albin Michel. Emmanuel Macron a reparlé d'envoyer des troupes en Ukraine dans une interview à The Economist. C'est le seul moyen d'arrêter les néo-empires, comme vous les appelez, comme la Russie ?
Alors là, on a un problème particulier, n'est-ce pas ? C'est que, en fait, ces néo-empires, ils sont prêts à faire la guerre partout. Vous le disiez, la Chine veut s'emparer de Taïwan, l'Inde veut le Cachemire. La Turquie réclame l'autre partie de Chypre, les îles de la mer Égée, les Balkans et le Haut-Karabakh. où Erdogan a affamé une centaine de milliers d'Arméniens dans un camp à ciel ouvert, rappelant le génocide de 1915. L'Iran, on le voit bien aussi à travers tous les relais chiites dont Téhéran dispose au Moyen-Orient, l'Iran aussi mène sa guerre. Donc ils mènent tout ça. Mais Poutine, qui est leur émule, a transposé cette guerre sur le vieux continent, le continent européen, celui qui portait la promesse depuis 1945 d'être en fait la terre de la paix, n'est-ce pas ? De la paix à jamais, plus jamais ça. Ça recommence. Donc ça recommence avec quelqu'un qui, de manière assez claire, affiche sa cruauté et son désir impérial, et je dirais le déploie avec beaucoup de férocité aussi, n'est-ce pas, et de maximalisme. Donc, ne pas l'arrêter là, ça veut dire lui laisser en quelque sorte un sauf-conduit pour qu'il aille plus loin. Ça, c'est réel. Ne pas l'arrêter là, c'est laisser les Russes aussi dans une espèce d'atmosphère irrespirable qui rappelle 1937, n'est-ce pas, où les gens sont espionnés, écoutés, arrêtés, emprisonnés, déportés, voilà. Donc, il faut pouvoir dire non et montrer des limites. Malheureusement, le dilemme américain a fait que les Ukrainiens sont très en retard sur leur campagne, la mobilisation est à la peine. Lui, Poutine, en fait, accumule les armes de la part de ses amis. Ses amis sont quand même l'Iran, la Corée du Nord, peut-être la Chine via la Corée du Nord l'alimente aussi en armes. Il est prêt à prendre encore plus de territoire avant de négocier pour garder ce qu'il a gagné. Il ne faut pas qu'il gagne, voilà, c'est ça l'idée. À partir de ce moment-là, que l'on puisse s'engager contre la Russie, évidemment, ça y ferait parce qu'on dit, oulala, ça va être le cataclysme nucléaire, etc. Non, Poutine n'en est pas à ce point, et je crois qu'il ne comprend que le langage de la force. Si ce n'est qu'on n'emploie pas exactement le même langage de la force que lui, je pense que lui, c'est vraiment une force aveugle.
Et la mobilisation pro-palestinienne à Sciences Po ou sur les campus des universités américaines, parce que là aussi, hein, c'est très important. Est-ce qu'il s'agit pour vous d'une manifestation anti-occidentale comme au temps de l'opposition à la guerre du Vietnam dans les années 60-70 ou aux manifestations pour la paix contre la bombe atomique dans les années 50 ?
Ou comme dans ma génération, la fascination pour l'Amérique latine, le Chili...
Cuba,
je pense que il est bon que les jeunesses puissent se passionner pour des causes qui leur sont à peu près totalement étrangères d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue culturel, n'est-ce pas ?
Oui, mais ce qui les unit toutes, c'est justement l'anti-occidentalisme.
Voilà. Maintenant, quand on en arrive à déclarer qu'Israël serait aujourd'hui en train de commettre un génocide, et quand on est en train de traiter les Israéliens de nazis, je pense qu'on est dans une grave faute d'inculture menaçante et qui est en bordure, en fait, véritablement d'une espèce de blasphème sur notre propre histoire.
Alors on disait CRSSS en mai 68.
CRSSS, oui. Si ce n'est que peut-être que les grands-parents quelques grands-parents de CRS étaient engagés dans la fin des SS, mais il n'y avait pas de lien historique, n'est-ce pas ? Parce que là, on est face à un renversement du monde, et après le pogrom du 7 octobre, ce qui m'a véritablement frappé, c'est cette vague d'antisémitisme qui a été planétaire, qui a touché des pays dont on pensait même qu'ils étaient plutôt épargnés par ce type de virus. Et on a vu aussi l'Amérique basculer. Donc il faut se rappeler que l'Amérique, elle était antisémite avant 1930, de manière assez lourde. Henry Ford était le grand pourvoyeur de l'antisémitisme américain. Donc on voit ce réveil. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce réveil, n'est-ce pas ? Alors chez nous, il y a certainement la haine de soi. La haine de son histoire, la méconnaissance de son histoire. Il y a certainement aussi la prise à partie d'un ennemi qui est considéré comme une espèce de maximum d'Occident, ce qui, là encore, ne cadre pas avec les réalités. Israël a toujours causé beaucoup de problèmes aux États-Unis, n'a jamais véritablement obéi aux États-Unis. Israël est une société qui s'orientalise énormément. Je veux dire, Israël était à deux pas d'intégrer, en fait, son monde naturel, son microcosme, n'est-ce pas, avec le monde arabe, c'est véritablement l'Iran qui n'a pas voulu de cela. Maintenant, si on se sent solidaire, et non sans raison, des Palestiniens et de leur drame, il faut bien se rendre compte que le Hamas, c'est un des leviers du drame palestinien. Donc je crois qu'on est véritablement dans une sorte d'hubris, de représentation totalement imaginaire, et dans une forme un peu de négation du réel.
L'Occident, c'est quoi? Ça représente quoi de nos jours?
Ah non, mais moi justement, vous savez, je ne suis pas du tout... Je pense que l'Occident, c'est une position géographique. On est toujours l'occidental de quelqu'un et l'oriental d'un autre, pendant très longtemps. Le mot ne vient... Alors, au Moyen-Âge, Empire romain, on parle de l'œcumène. Au Moyen-Âge, on parle de la christianité, c'est la chrétienté. Au moment des Lumières, on parle de l'Europe. Le mot Occident vient... à peu près à la fin du 19e siècle, début du 20e, autour de 1914-1918, pour dire qu'il est mort, que c'est fini, c'est, n'est-ce pas, le déclin de l'Occident de Spengler, la défense de l'Occident de Massis, la tentation de l'Occident de Malraux. D'un coup, le mot apparaît, vous savez, c'est ce genre de mot valise qui apparaît, en fait, pour déplorer une réalité qui n'est plus là. Mais en fait, elle n'a jamais existé en tant que telle, cette réalité. Si l'Occident, c'est l'héritage gréco-latin, alors là, on va vite faire. Je veux dire, Aristote n'est connu en Europe qu'au XIIe siècle et Platon qu'au XVe. C'est un peu tardif. Si c'est l'héritage chrétien, ben, il y a trois christianismes qui sont livrés à des guerres sanglantes qui s'appellent les guerres de religion, n'est-ce pas? Et bon, quel christianisme? En ce cas-là, si on dit judéo-chrétien, c'est passé sur à peu près 14-15 siècles, véritablement, de persécution à des juifs. Et si on dit c'est les Lumières, ben il faut mettre dedans, lorsqu'il y a suivi, malheureusement, 14-18, 39-45, Auschwitz, le Goulag. Donc, vous voyez bien que c'est une notion, en fait, valise. D'ailleurs, si je vous dis Occident, alors vous allez me dire, oui, ben, ah, c'est la démocratie libérale, c'est les élections, c'est l'état de droit. Mais jamais vous mettrez l'Argentine, par exemple, dans l'Occident, alors que vous y mettrez l'Australie, et la Nouvelle-Zélande. Ça veut dire qu'en fait, l'Occident, ça n'a qu'un sens strict depuis 1945, c'est l'Alliance Atlantique, menée par les États-Unis, qui embrigade l'Europe, et en fait, c'est un cartel anglo-saxon.
Merci Jean-François Colosimo. Occident, ennemi mondial numéro 1, ça vient de paraître chez Albin Michel.
Merci.